Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Clément Altresco, le fondateur et CEO de Bureau à Partager. Bonjour Clément.
Salut Mathieu.
Je suis ravi de te recevoir. Est-ce que je peux te demander de te présenter ?
Donc moi je m'appelle Clément, j'ai 38 ans. Alors je me présente souvent comme un entrepreneur. Aujourd'hui je dirige et fondé un groupe qui s'appelle BAP. Avec plusieurs activités. Notre mission, hein, comme on aime bien le dire, c'est d'essayer de réinventer le travail. Cette petite occupation qui prend 10 à 12 heures par jour, on essaye de faire en sorte qu'elle soit plus sympa, en tout cas de réfléchir à des nouveaux modes de travail. Et pour ça, on crée avant tout des espaces de coworking sous la marque Morning. On a aujourd'hui 15 espaces, Paris, Première Couronne. Des espaces dans lesquels il fait bon bosser, travailler. Notre slogan, c'est du taf, mais c'est du kiff. Et ça va ensemble, le taf et le kiff. Donc voilà, sur les espaces morning, on a aussi chez nous un site qui s'appelle bureauapartager.com, qui est l'activité historique et sur lequel on regroupe tous les espaces de coworking en France et les espaces partagés par les entreprises, comme ici d'ailleurs, je crois que vous partagez des bureaux.
Tout à fait, chez Cosa Vostra, on est client Bureau à Partager, oui.
Voilà. Du coup, c'est un vrai site qui permet à auto-entrepreneurs, indépendants, TPE, PME et même de plus en plus de grosses boîtes de trouver des bureaux flexibles, sympas, dans lesquels ils peuvent venir bosser en coworking. Enfin, on a deux autres activités. La première, c'est qu'on édite un soft de gestion d'espace de coworking qui s'appelle Link. Donc un soft pour gérer un espace de coworking, surtout gérer la communauté des coworkers, organiser des événements, discuter, enfin vraiment c'est un fil Facebook par espace et plein d'autres choses, le contrat, etc. Et le dernier projet qu'on a qui est dans les bacs en ce moment, il s'appelle Flex et j'en dis pas trop, mais l'objectif c'est de créer une application mobile pour permettre aux salariés des grands groupes de booker, louer en temps réel des espaces de coworking partout, tout le temps, avec une dimension télétravail, évidemment, et mobilité des employés. Donc voilà, ça fait pas mal de choses. Évidemment, ce qui tire la croissance aujourd'hui du groupe, c'est l'activité morning. On a plein d'espaces qu'on va ouvrir avant l'été. 4, peut-être 5. On est en train de signer là, oui. 2 espaces 2 prochaines semaines. Et voilà, donc on s'éclate, on est 70, on a 5 ans, c'est une belle aventure, on essaie de vraiment faire des choses comme on les aime, et voilà, c'est très passionnant comme aventure.
Et ben ça fait, en effet, c'est assez riche, juste pour en plus une seule aventure professionnelle, parce que t'en as eu d'autres avant, on y viendra, mais notamment... quelques beaux succès. Pour bien comprendre juste Morning, c'est donc vous êtes un concurrent de WeWork ou voilà, avec vos propres. La différence avec Bureau à Partager, c'est que vous louez des bureaux chez Cosa Vostra par exemple et ailleurs, donc un peu partout.
Une place de marché.
Voilà.
Quoi.
Et Morning, c'est vraiment votre.
Nos espaces.
Vos espaces que vous louez en 369, hein, sur un bail ou vous achetez pas, j'imagine. Si.
Alors on a deux modèles sur Morning. Un modèle un peu particulier et un modèle classique. Alors le modèle particulier, ou plutôt un modèle éphémère, c'est qu'on va prendre des espaces sur des périodes court, moyen terme, entre 1 an et 3 ans. Des espaces qui peuvent être soit en cours de travaux ou pour plein de raisons, en fait, il y a plein d'espaces qui restent vides pendant des périodes plus ou moins longues. Et donc nous, on va aller chercher à valoriser ces espaces et à les transformer en espaces de coworking sur cette période de vacances forcées. C'est comme ça, par exemple, qu'en ce moment, on occupe une ancienne école de commerce, ancien lycée.
D'accord.
Qui fait 7000 m2, avenue Truden.
Folie.
C'est une belle folie. Il y a 2 cours intérieurs. C'est dans son jus. C'est vraiment une école, quoi. On a transformé les salles de classe en bureaux.
Ok.
Et on a retapé cette école et on sait pas combien de temps on va l'avoir encore.
T'as un préavis de quelques mois.
Exactement. On a un préavis de 3 mois. Il y a quand même 500 Gus qui bossent dedans, il y a plus de 50 boîtes. Et tout le monde sait qu'en 3 mois, on peut tous se faire virer gentiment. Alors voilà, c'est le deal, hein, par le propriétaire qui évidemment prévoit de faire des travaux dans X mois dès que son permis de construire sera tout bien validé. Donc c'est un style de prise à bail qui est la jambe éphémère, qui est très chouette parce qu'on se retrouve avec des espaces assez dingues, comme cette école. Mais on récupère plein d'autres trucs assez marrants, et puis c'est du recyclage en fait.
Oui, c'est ça, ça règle un vrai problème. C'est-à-dire que moi je passe souvent dans le 17e, pas loin d'ici, devant un espèce d'hôtel particulier immense et qui est vide.
Qui est vide
et il est à vendre depuis un an et demi. Et il est vide depuis un an et demi. Je me dis, mais c'est aberrant. Alors c'est aberrant à plusieurs titres, hein, c'est-à-dire que ça pourrait être déjà des gens qui dorment dehors, qui pourraient dormir dedans. Ne rêvons pas quand même aller jusque là, ce serait un peu trop. Mais au moins ça pourrait être des bureaux, quoi.
Mais tu rêves pas. Il y a une association qui s'appelle Aurore,
ouais,
qui fait de l'hébergement d'urgence, qui récupère pas mal d'espaces comme ça temporaires pour en faire des hébergements d'urgence, notamment pour les femmes qui se retrouvent à la rue avec des enfants.
Oui.
Et plein d'autres catégories de personnes.
Comme quoi, faut rêver, quoi.
Non, mais bien sûr, il y a, voilà, Aurore a cette activité. C'est eux qui gèrent un grand projet qui s'appelle Les Grands Voisins dans le 14e, qui est un ancien hôpital de 14 000 mètres carrés, qui est en train de plus ou moins s'arrêter. Mais donc il y a des sujets très intéressants de ce côté-là, de revalorisation, de recyclage d'espaces perdus. Et donc c'est une partie de ce qu'on fait. Alors nous, la différence typiquement avec Aurore, c'est qu'on va faire quand même des travaux assez substantiels. Mm-hmm. On va pas non plus faire n'importe quoi, voilà. Mais on va quand même, par exemple, sur l'école de Truden, on a dépensé, alors c'est pas beaucoup, hein, 600 000 euros pour retaper l'école. Alors ça paraît beaucoup, 600 000 euros, mais en fait au regard des 7 000 mètres carrés, c'est pas beaucoup.
Ouais.
Quand on rapporte ça au mètre carré, ça fait moins de 100 euros du mètre carré, ce qui est que dalle en fait pour retaper des bureaux. Et ça cartonne, c'est plein. On a une file d'attente pour les bureaux Truden, c'est génial.
Et c'est fou quand même d'en arriver là, parce que 5 ans sur bureau à partager, arriver en 5 ans à me dire sur ce podcast, on a investi que dalle, 600 000 euros.
Mais
tu vois, c'est toujours du relatif. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, tu m'aurais dit ça, le projet, c'est presque le projet de ma vie, quoi.
Enfin, oui, c'était 2 fois mon chiffre d'affaires. Bien sûr. On relativise au prix des travaux, ça coûte cher les travaux. Donc on a cette activité avec une jambe éphémère où on a plein d'opportunités et puis on va gérer ces opportunités, faire en sorte de trouver des espaces, les retaper et pour une durée, on va dire, éphémère. Donc voilà, je peux vous en citer plein des espaces, mais c'est l'idée. Et après il y a la jambe classique long terme, bail 3, 6, 9, 9 ans, 12 ans ferme, donc c'est le bail classique, sur un modèle des grands concurrents comme WeWork, Nextdoor, Quark et compagnie, qui sont un peu les noms du coworking en France aujourd'hui. C'est évidemment plus de financement parce qu'il y a des garanties, il y a des gros propriétaires qui veulent des garanties et donc il faut beaucoup plus d'argent. Et c'est pour ça aussi qu'on va aller chercher en ce moment des financements pour pouvoir prendre plus de mètres carrés de ce type-là à terme. Donc voilà, on a 2 jambes sur Morning. Le côté éphémère porte plus opportuniste et le côté plus classique. Voilà. Et au final, on fait la même chose à l'intérieur des espaces. Notre objectif, c'est de créer une communauté d'entreprises, des colocataires qui vont échanger, qui vont s'éclater dans un espace et créer une bonne ambiance. Et donc ça, c'est notre mission première. Que ça soit pour 2 ans ou pour 10 ans, au final, c'est pareil. C'est la même chose. On va peut-être moins investir quand on est là pour 2 ans que sur 10 ans, mais on va investir autant dans l'ambiance. Voilà.
Et du coup, c'est le fondamental, on va dire le sous-jacent sur bureau à partager, Morning, Link, bientôt Flex. C'est un peu ce nouveau mode de travail. Tu le disais tout à l'heure, mais en fait, le travail change, la manière de travailler change, les lieux changent. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Je te le disais tout à l'heure, mais quand est-ce que tu t'en es rendu compte et à quel point tu crois que ça a changé? Parce que j'imagine que oui, alors, des choses.
C'est vrai que c'est pas un changement radical, c'est un changement très lent mais très perceptible quand même et très très fort. Je m'en suis rendu compte il y a 10 ans, à peu près, plutôt il y a 8 ans, quand j'ai passé 3 ans à San Francisco. Entre 2008 et 2011, j'ai eu la chance de m'occuper de la filiale américaine de ma boîte, de mon ancienne boîte qui s'appelle Faber Novel. Mm-hmm. Et j'ai notamment monté un espace de coworking à San Francisco qui s'appelle Paris Soma. Et j'ai passé du coup 3 ans de ma vie dans un espace de coworking à tout gérer de A à Z et être un peu chef de bar, quoi. Parce que quand tu gères un espace de coworking, finalement, il y a des gens qui arrivent tous les jours dans ton espace. Il y a des événements, il y a voilà, c'est énormément de social en fait.
Tu peux juste m'expliquer pour faire un petit pause là-dessus comment tu crées Paris Soma, c'est quoi l'idée? Tu arrives là-bas, tu te dis on va monter et je salue au passage on n'a pas dit donc que tu étais cofondateur de Faber?
Non.
Partner?
Ouais. Associé.
D'accord. Associé de Faber Novel qui est une très très belle agence qu'on aime beaucoup chez Cosa Vostra. Néanmoins. Concurrent
et
co-compétiteur, confrère. Non, mais en plus, vraiment, on pense tout le bien de possible de Faber. Mais tu débarques là-bas à San Francisco. C'est quoi? T'as pas de bureau? Tu te dis, bah, faut que j'en trouve un. Je vais monter un truc. Comment t'arrives à créer Paris Soma en fait?
Ouais. Alors l'histoire elle est assez marrante. Donc le fondateur de Faber Novel s'appelle Stéphane Distinguin. Et à l'époque, il a aussi développé une asso qui s'appelle toujours le Silicon Sentier.
Oui.
Qui est plus une asso maintenant, qui est un peu l'ancêtre de la cantine et l'ancêtre du Nouma. Et en fait, à travers ses activités.
Dont on a parlé avec Alice Zaguri la semaine dernière.
Voilà. Et du coup, dans ses activités, il est amené à voyager avec Bertrand Delanoë, ex-maire de Paris à l'époque, mm-hmm. Pour jumeler Paris et San Francisco. Je crois qu'on est en 2006 et en revenant de ce voyage, il arrive dans le bureau et il dit bon, faut qu'on crée un bureau à San Francisco, c'est là-bas que ça se passe. Faber Novel, c'est le futur, il est à Paris, mais il se fait à San Francisco, donc faut qu'on ait un pied là-bas. Donc on remue ciel et terre et puis il trouve l'ex-copine d'un copain à Paris qui a un appart à San Francisco qui est beaucoup trop grand pour elle. 215 mètres carrés juste pour elle.
D'accord.
Et du coup, on lui sous-loue l'appart. Et du coup, on y met notre bureau qu'on appelle Paris Soma. Donc au départ, Paris Soma, c'était un bureau avec quelqu'un qui habitait à l'intérieur. Y avait une cuisine, enfin voilà. Et elle habitait là sa chambre. Enfin, c'était assez rock'n'roll, comme on l'aimait.
Donc elle sortait en pyjama pendant que vous...
C'est à peu près ça. Et du coup, ça s'est lancé en 2007. À peu près au même moment que la cantine d'ailleurs.
D'accord.
Sous un format un peu hybride comme ça, assez marrant. Et puis nous, on a monté du coup le Faber Novel USA. Alors au début, il y avait pas grand-chose, hein, c'était juste Paris Soma. Mm-hmm. Et puis j'ai décidé avec Stéphane d'y aller pour faire un peu monter la sauce.
D'accord.
Et du coup, j'ai passé 3 ans là-bas à partir de 2008 à développer Paris Soma. Effectivement. J'ai essayé aussi de développer Faber Novel au début, mais avec mes 28 ans à l'époque et mon petit accent français, et j'arrivais pour voir des boîtes américaines et leur expliquer qu'on allait leur expliquer ce que c'est que l'innovation et les nouvelles technologies. Ça passait pas trop. Enfin, j'ai pas beaucoup essayé pour te dire vrai. Donc, je me suis surtout concentré sur Paris Soma. D'accord. J'ai créé un écosystème en fait. C'est ça que j'ai créé, un espace avec un écosystème autour.
Avec il y avait par exemple surtout des Français ou rien.
Il y avait les deux. Non, il y avait les deux. Oui. Alors effectivement, il y avait une teinte française et on va dire qu'il y avait un tiers, peut-être la moitié de temps en temps des gens qui parlaient français. Effectivement, ça faisait le pont quand même avec notre réseau et notre écosystème français. Mais je me suis toujours battu pour qu'il y ait un bon équilibre.
D'accord.
Voilà. Et c'est toujours le cas. Il y a toujours une dimension assez internationale avec une bonne part de Français, mais pas mal, beaucoup d'Américains.
Et c'est plus dans cet appartement de 215 mètres carrés.
Non. Alors l'histoire est que donc au bout de 2 ans, on a eu l'opportunité de prendre un espace de 1000 mètres carrés juste de l'autre côté de la rue.
Ouais.
Donc le même bloc et un super espace. D'ailleurs, les anciens locaux de, je sais pas si tu vois la boîte qui s'appelle Best Place to Work là, tu sais le truc de, oui. De notation.
Oui, oui, bien sûr. Ouais.
Et c'est eux qui avaient ils avaient des vieux cubicles dégueulasses dans cet espace pour une boîte qui est censée prôner l'amour au travail. Et voilà. Donc on a tout viré, on a fait un super espace et on faisait des TEDx Soma, on avait 200 personnes qui venaient, on avait un super espace événementiel. Donc déjà on faisait des événements assez cool dans notre espace avant, ouais. Mais alors dans celui-là c'était juste dingue, donc ça nous a boosté l'écosystème, un truc de malade. On faisait 2-3 événements par soir, on faisait de la formation, j'avais pas un soir où on avait pas des trucs qui se passaient chez nous, et ça a vraiment été ça a duré un an avant que je revienne à Paris, et puis après ça a continué sans moi, hein, mais voilà, donc le passage à l'échelle entre 200 mètres carrés et 1000 mètres carrés a été assez dingue.
D'accord. Ce qui me fait marrer, c'est que en préparant ce petit entretien tout à l'heure, Clément me disait qu'il pensait pas qu'il allait pouvoir tenir plus de 15 minutes, je pense, mais je pourrais te faire parler une heure et demie et ça, tous les gens qui nous écoutent, juste de
c'est
parler
toujours comme ça,
moi,
ouais.
Tu vois. Non, mais.
Ah ouais, non, mais pareil,
parce que ça a l'air d'être et ce qui est fou, c'est que t'arrives là-bas avec, en fait, un autre projet qui est de développer Faber Novel. Alors, est-ce que du coup, tu disais que finalement tu t'es concentré là-dessus, mais est-ce que Paris Soma t'a rapporté du business pour Faber?
Ouais.
C'est ça qui est intéressant. Exactement. Dans ce genre de projet, en fait.
Exactement, parce que ça a toujours été un objectif en soi de développer aussi l'activité conseil avec Faber. Et donc du coup, l'écosystème qu'on crée grâce à Paris Soma commençait à attirer des grandes boîtes. Mm-hmm. On faisait des événements avec les Twitter, avec toutes les gros de la place de San Francisco, de la Silicon Valley. Et du coup, ça nous a amené à commencer à bosser avec des boîtes sur place. On a fait une mission pour un constructeur, une application. Et c'est beaucoup le moment des applications, ouais. À l'époque.
Ah oui, 2008, 2009.
On faisait pas mal de trucs d'applications. On lançait aussi quelques projets français à San Francisco, puisqu'on était sur place et ils avaient, voilà. Donc on a commencé à développer cette activité. On faisait aussi des voyages entre Paris et San Francisco.
Oui,
Faber Novel de plus en plus.
Des voyages exploratoires.
Ouais, exactement. C'est learning expédition, comme on appelle ça. Et donc effectivement, cet écosystème et cette base de contact Paris Soma a été un tremplin pour l'activité de Faber Novel. Et donc ça a été quelque chose de voulu sans être vraiment voulu, c'est-à-dire que c'est l'opportunité en fait qui crée le, voilà.
Tout en étant un tremplin pour toi du coup, parce que ça a été la base de BAP.
Ouais, effectivement. Alors ce qui est drôle, c'est que Bureau à partager a préexisté à mon départ, puisque le site bureauapartager.com, je l'avais monté chez Faber Novel toujours. Parce qu'on avait des bureaux trop grands, boulevard Sébastopol, on avait 200 mètres carrés, on a pris 200 mètres carrés en trop, on avait trop de place. Et du coup, comme souvent Stéphane m'a dit, trouve des colocs, c'est pas possible qu'on paye un loyer pour rien. Et donc je me suis démerdé. Au départ, j'ai appelé les copains pour savoir qui voulait louer des bureaux. Et puis au final, j'avais plus de copains à appeler, j'ai créé un site.
Ouais, sachant que c'est une dynamique intéressante, j'en ai parlé ici avec Christian Georges notamment, qui est un des fondateurs de Vestiaire Collective, qui nous racontait dans des logiques d'hypercroissance, finalement louer des bureaux ou un entrepôt ou quelque chose beaucoup trop grand pour soi, ça fait partie du jeu, parce que évidemment moi alors je suis pas bureau partagé ni Vestiaire Collectif encore moins, mais le Cosa Vostra, on a dû déménager 4 fois en 4 ans.
Ouais.
Donc il y a un moment tu te dis bon ça suffit, en fait j'ai besoin de combien, 200 mètres carrés, ok je vais prendre 400, et puis en effet t'arrives à cette problématique de rentabilité, c'est que tu peux absolument pas
te permettre des bureaux vides. Ouais.
Exactement, donc du coup tu sous-loues et tu appelles bureau à partager.
C'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on s'est monté à la base. Alors on est en 2007, il y a pas l'économie collaborative. Il y a Airbnb, je crois, existe. Enfin, voilà. Au départ, on a vraiment monté un espace pour entrepreneurs pour partager ses bureaux. Mmh. C'était vraiment ça l'essence du truc. Et du coup, le coworking a démarré à peu près à ce moment-là. Enfin, voilà, ça a été un peu parallèle. Et au départ, effectivement, bureaupartagé.com, c'était vraiment un site pour trouver son colloque de bureau qu'on a monté pour notre problème, qui était qu'on avait des bureaux trop grands. Et puis finalement, on l'a ouvert à tout le monde. Et puis on s'est dit, bon, bah, on verra si ça marche. On l'a fabriqué, le site avec des colloques qui sortaient de l'Epitech.
D'accord.
À qui on a filé 2000 euros pour faire le site, le premier site.
Le POC.
Le POC, exactement. On leur a donné 10 000 euros pour faire la V2 deux ans après. Et 20 000 euros pour faire la V3 cinq ans après.
Donc du coup,
ils sont restés 3 ans. Ils ont fait les 3 versions avant qu'on la récupère vraiment. Et c'est moi qui l'ai récupéré après. Mais ouais, c'est
donc du coup, quand tu dis que ça existe depuis 5 ans, tu parles de cette 3e version. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment une sorte de site de truc bricolé.
On occupait une heure par semaine.
Ouais.
C'était vraiment un site qu'on avait comme ça, voilà, qui avait pas de business model.
Qui avait une entité juridique ?
Non. C'était chez Faber Novel. Ouais. Ouais.
D'accord. Donc il y a eu cette scission à un moment. Alors, je te propose de revenir sur ce point juste après. Je voudrais quand même qu'on remonte très loin en arrière parce qu'on n'a pas parlé d'un ou deux points dans ta vie. Moi, j'ai notamment lu plusieurs points intéressants, mais notamment Digitik. Donc t'es l'un des cofondateurs de Digitik.
Ouais. Alors ma petite histoire en rapide. Hein, moi, j'ai fait Dauphine.
J'ai grandi à Paris.
J'ai grandi à Paris. Dans le 15e, j'ai fait Dauphine, voilà, le classique, quoi, ouais. Rien de spécial. Et en sortant de mon DESS, parce que c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque, hein, pour les jeunes qui écoutent, Master 2, je devais faire un stage. J'ai rencontré Stéphane qui était dans un fonds d'amorçage, parce que j'avais envie de faire de l'investissement dans les startups. Hein.
D'accord.
Et puis il m'a pris dans son fonds d'amorçage. Et puis,
en 2000, 2001, quelque chose comme
2000,
ça.
2003.
Ouais, d'accord.
Et du coup, un mois plus tard, il m'a dit, bon, en fait, je quitte le fonds d'amorçage, je vais monter ma boîte qui va s'appeler Faber Novel. Tu viens avec moi en stage toujours. Et bon, comme j'avais pas le choix, parce que de toute façon je devais valider mon DESS, je lui dis bah oui, bien sûr.
Et ils t'ont laissé, parce que partir de changer d'entité juridique en cours de stage, c'est compliqué, quoi.
Ouais, bah j'ai raté. D'ailleurs, j'ai dû valider que l'année suivante mon DESS à cause de ça.
D'accord.
Parce que j'avais perdu un
fallait
mois.
Fallait le suivre quand même. Ouais, d'accord.
Ouais, ouais. Après, voilà. Et donc j'ai démarré au 1er septembre, au premier jour de Faber Novel.
D'accord.
J'ai monté le bureau physiquement avec les vis et les trucs de Faber Novel dans le bureau. Voilà, c'était assez drôle.
Vous étiez combien du coup ?
On était deux Clément, deux stagiaires.
Ouais.
D'ailleurs, je le vois toujours. Je bosse avec l'autre Clément en ce moment sur des projets. C'est
d'accord.
Assez drôle.
Clément comment ?
Clément Terry.
D'accord.
Parce qu'il fait de l'immobilier maintenant.
Ok.
Il est chez un promoteur aménageur. Du coup, on a démarré comme ça, deux Clément plus Stéphane, le 1er septembre 2003, Faber Novel, dans une coloc de bureau d'une boîte espagnole qui était en train de sous-louer, ça allait mal, du coup,
d'accord.
Ils sous-louaient des espaces. Donc, tu vois, ça a toujours suivi depuis le début de ma carrière. Depuis le début de ma jeune carrière, la colocation de bureau, ça a toujours été présent, quoi.
Donc, t'es quasi cofondateur, sauf que t'étais pas actionnaire, mais t'étais là à la fondation.
Voilà. Et donc, le premier projet sur lequel Stéphane avait gagné, était avec Transdev, qui est l'équivalent de la RATP en région.
Tout à fait.
Et avec FTRD et Orange. Et l'idée, c'était de faire des billets de bus sur mobile. Alors à l'époque, on est en 2003, l'internet mobile, ça s'appelle le WAP à l'époque.
Ouais.
Je sais pas si tu te rappelles.
Les écrans couleurs, ça n'existe pas.
Il y avait juste à l'époque, il y avait l'iMode qui était la version couleur du WAP qui venait du Japon. Donc on est vraiment sur la préhistoire du... Voilà, l'iPhone, c'est en 2006. Donc on est 3 ans avant l'iPhone et c'est vraiment la préhistoire de l'internet mobile. Et donc nous, on avait un projet avec tout le monde qui faisait des billets de bus sur mobile. Je vais vite, mais en gros, en sortie de ce projet, je dis à Stéphane, bah écoute, c'est con, faudrait faire des billets pour les concerts sur le mobile. Il y a voilà, le mobile, c'est ah. Et donc on arrive à convaincre Bouygues Télécom d'acheter des places pour le Gala Dauphine, 300 places. Et de les vendre sur l'iMode.
D'accord.
Exclusivement sur l'iMode.
J'allais te dire tout à l'heure que je me souvenais que iMode, c'était Bouygues, parce que c'était que Bouygues, hein, je crois.
C'était que Bouygues, ouais.
Ouais, ouais.
Et donc, du coup, moi, comme je suis un petit malin et que je connais bien le Gala Dauphine parce que ça faisait 5 ans que j'étais en cette fac, je savais que 2 semaines avant, il n'y aurait plus de place à vendre. Et donc, 2 semaines avant, évidemment, il y a des affiches partout dans Dauphine qui a un iMode pour acheter des places. Il n'y a plus que des places sur iMode. Donc, en fait, les 300 places qui sont à vendre sur iMode, personne n'avait d'iMode à l'époque,
oui.
Mais du coup, tout le monde recherchait un iMode. Donc, il y a limite des gens qui se mettaient à prendre un forfait pour avoir la place sur iMode. Donc ça a bien cartonné et du coup on a été invité. Alors faut se rendre compte à l'époque on était 3 ou 4 chez Faber Novel, on a été invité à Challenger pour voir le directeur stratégique de Bouygues parce que le fils Bouygues a fait remonter ça à son père.
Challenger c'est le grand bureau, le grand
le grand c'est les headquarters de Bouygues. C'est leur Bouygues-plex qui est en dehors de Paris où c'est enfin c'est un parc quoi le truc. Ouais. Et donc on se retrouve dans le bureau gigantesque de du stratégie head of strategy de Bouygues et puis voilà, c'était très cool quoi. Et donc c'est comme ça qu'est né Digitik par une première mission comme ça par Bouygues Télécom. Après on a fait tous les galas de fac avec Bouygues et puis on a commencé à faire plein de trucs avec l'Olympia etc. Et en fait moi ce que j'ai fait vraiment c'est de construire le produit voilà.
Ce qui est sympa je dois préciser parce que par moment moi j'ai un truc qui me manque en étant en dirigeant une agence, même si on crée des projets, on crée encore des startups chez Cosa Vostra, mais c'est ce côté, tu vois, être à la tête de bureau à partager d'une startup et voilà le fait de bosser pour d'autres tout le temps, des clients. Par moment, on se dit ils font pas les choses comme on a envie de les faire pour des raisons X ou Y, mais il y a quand même ce revers de médaille qui est super cool, c'est que c'est très inspirant. Je veux dire, là t'as un client qui te dit je veux faire des billets sur mobile. Et puis finalement, ça te donne une idée pour faire autre chose. Et moi, dans ma réflexion personnelle autour de tout ça, je me dis quand même quand je vais voir un client qui est dans le luxe, dans l'assurance, dans le pet food, dans que sais-je, les montres, qui m'emmène visiter pour le citer parce que c'est un super client, Moser qui fait des montres et qui m'emmène Moser qui fait des montres super en Suisse. Tu vas visiter son usine, c'est fou et ça t'inspire. Sur plein de choses, son usine, sa manufacture. Et voilà. Et donc, je trouve ça intéressant de voir aussi que ça, c'est ton premier client. En revanche, toi, t'as pas duré 2 secondes sur Faber. Finalement, Faber Novel était parti direct sur Digitik, en fait.
Non, t'as complètement raison. En fait, ce qui se passe, et c'est là où moi, j'ai toujours été entrepreneur et j'ai toujours aimé pousser les projets. En fait, pour moi, un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui a envie de pousser des projets et qui lâche rien, quoi. Et qui voit un truc qui lui plaît et qui se dit, OK, je vais faire ça, ça m'amuse. Et donc, effectivement, l'inspiration vient de tous les côtés. Là, elle est venue d'un projet qu'on menait. Et on s'est dit, mais voilà, il faut lancer une activité de billettique sur mobile. Ça n'existait pas à l'époque, nulle part. Et donc c'est l'inspiration est arrivée et puis on a trouvé la façon de commencer à y aller et puis Digitik est né, on a commencé à faire des billets un peu partout sur mobile et on les imprimait aussi.
Et comment se fait cette décision juste de créer Digitik? C'est quel moment, c'est qui, c'est une discussion avec vous êtes combien, qui part, qui reste chez Faber, pourquoi vous continuez, pourquoi Stéphane continue Faber, est-ce qu'il est dans Digitik, enfin c'est quoi?
L'histoire elle est très simple, on avait un prestataire qui s'appelait MobiVillage à l'époque, qui nous aidait sur la partie qui développait toute la partie mobile, qui était à Marseille. Avec 2 entrepreneurs à sa tête. Et donc, il faut se dire qu'on a 6-8 mois dans les pattes avec Faber Novel. Hein. On était gentils quand même, hein, à l'époque. C'était le début. Hein. On n'avait pas beaucoup d'expérience. Et donc, on dit à ce prestataire, écoutez, nous, on veut monter une boîte là-dessus. Est-ce que ça vous tente? Évidemment, ils sont chauds. Et ils disent, voilà. Et donc, on l'a fait à 51-49 pour eux. Première grosse connerie. Ou pas. Ça dépend comment tu regardes l'histoire.
Donc, MobiVillage prend 51%.
Ouais, exactement.
D'accord. Et 49, c'est...
Moi, j'avais 5 et Faber Novel avait 44.
D'accord.
Voilà. Donc effectivement, j'ai pris un petit bout. Voilà. Donc,
moi, sachant que t'étais à peine stagios, quoi. Enfin,
j'ai signé mon CDI le 1er mars.
D'accord.
2004. Et voilà. Donc évidemment, moi, j'étais complètement à fond. Je disais à Stéphane, vas-y, j'aille à fond sur Digitik. Je veux prendre plus. Je veux me mettre à risque. Et Stéphane, il a eu l'intelligence, je pense à l'époque, de me calmer un petit peu et de rééquilibrer les choses. Le jour je faisais du Faber Novel, le soir et le week-end je faisais du Digitik. Évidemment j'étais à fond parce que voilà, c'était mon bébé. Pendant 2 ans j'ai mangé et bu Digitik, j'ai construit le produit avec un Marseillais Tekos que j'avais au téléphone tous les jours, avec qui je montais et je développais la plateforme, on se voyait régulièrement, et du coup je profitais des ressources de MobiVillage grâce à ce mec là On construisait le produit et le service à Paris. Et c'est comme ça que Digitik a commencé à grandir.
Et le deal était sans cash. C'est-à-dire qu'il ouais. vous donnait.
C'était des ressources, ouais.
Il vous donnait des ressources, un certain nombre de ressources. Et c'est parti comme
on
ça.
On est parti vraiment en mode chacun met ses ressources.
Un peu startup studio, quoi, quand même, dans l'approche. Ouais. Enfin, très bien.
Ouais, ouais. Exactement. Et donc, pour la faire courte, hein, mais fin 2006, les Marseillais vendent le Mauvais Village à un Japonais. Ils vendent bien leur truc. Ils arrivent à sortir la partie de Digitik.
D'accord, ce que j'allais dire.
Et du coup, ils réinvestissent dedans et ils nous disent gentiment bon, bah maintenant, laissez-nous la main. On va mettre du pognon et on veut faire monter la sauce sur Digitik.
Et dilué du coup.
Et du coup, on perd la main. Alors, ça a été une épreuve un petit peu dure pour le jeuneau que j'étais de 25 ans, qui avait passé 2 ans de sa vie complètement accroché à son bébé et qui avait développé son petit bébé. Donc, j'ai eu un petit peu de mal.
Ouais, c'est quoi le ressenti là? Parce que c'est.
Ah bah, le ressenti, c'est que tu perds ton bébé, quoi. T'as
mangé. T'en veux à tout le monde, au monde entier.
Non, t'en veux aux Marseillais principalement. Ouais. mais finalement,
Je précise, recul, hein, pas tous les Marseillais.
Pas tous les Marseillais, évidemment. Mais globalement, bon, ça s'est passé. Ça s'est pas incroyablement passé, même si avec le recul, ils ont fait du super boulot. Ouais. Donc ils auraient peut-être pu avoir un peu plus de tact. Et mieux gérer la situation, et ça serait sûrement mieux passé pour moi. Mais au final, voilà, ils ont réussi leur truc. Ils ont revendu derrière Digitik 4 ans après à Vivendi pour 50 millions.
Et toi, vous, il vous restait rien?
Si, si.
Si, vous étiez.
Si, si, nous, on était largement dilués. Ouais, je crois que. Voilà. Moi, j'ai gagné 100 000 euros net d'impôts. Voilà.
À la fin?
À la fin, sur 50 millions. Voilà.
C'est dur parce que c'est. En effet, tu le dis sur
c'est
les
dur,
4-5
ans. En même temps, je sais pas si j'aurais fait mieux.
Oui, mais ce qui est dur, c'est de te dire que ta genèse et les 2 ans et le suivi, t'aurais pas fait mieux, mais Digitik n'aurait pas existé non plus.
Non.
Sans toi.
C'est clair.
Donc c'est quand même ça que je veux dire,
tu peux appuyer sur le ça fait mal, vas-y tu peux y aller.
On a cette approche très startup studio, donc on crée des startups avec Cosa Vostra, on crée souvent des startups dans lesquelles on a 100% au début, on a une idée entière, ouais. Puis on fait rentrer des opérationnels et puis on développe le business et puis voilà, en mettant souvent des ressources plus que du cash, même si de temps en temps on met un peu d'argent. Et il y a un moment où quand tu lèves des fonds, on te dit et les fonds, des gros fonds connus, qui ont pignon sur rue, ils te regardent, ils te disent qu'est-ce que tu fous là quoi, ouais. Ils te disent voilà, ils disent au mec qui est là opérationnel depuis 4 mois alors que toi ça fait 2 ans que t'es sur le projet, ouais. J'exagère un peu mais ça. Ils disent tu te rends compte les mecs ils ont que 70% de ta boîte, tu dis non mais attends je vais refaire le truc à l'endroit et c'est ma boîte.
Il a été payé l'opérationnel.
Et du coup c'est vrai que ça c'est le côté difficile, c'est que il y a quand même dans ce modus, ce truc où tu te dis ouais attends j'ai donné ce truc là j'ai bon
je sais c'est...
Et tu te dis pas, je veux dire, pardon, excuse-moi, à ce moment là tu te dis pas je vais prendre, enfin t'es pas devenu comme eux?
Non,
j'ai pas l'impression, mais
non, pas du tout. Et d'ailleurs, alors tu vois, le capital, la relation au capital et le travail, pour moi c'est un truc qui m'obsède, j'adore discuter de ce sujet là par exemple j'ai
vaste sujet aussi,
c'est un super sujet, c'est un sujet je pense aussi intéressant et d'actualité par rapport justement à la dimension travail, moi j'ai toujours prôné le fait de donner un maximum de capital aux salariés. Mmh. Ça a ses limites, évidemment, parce que donc, nous, on a des BSPCE. Hein, j'ai mis en place un plan de BSPCE, ouais. pour les donc, salariés de
c'est BAP. C'est un peu comme des stock options, les BSPCE. C'est donc ça, l'idée, ouais. C'est que il y a potentiellement un petit prix d'achat. Et ça, en l'occurrence,
de la revente.
Voilà. Tous les ans, on va prendre X dixième. Ouais.
En gros, l'idée des BSPCE, c'est juste que c'est une... Alors, financièrement, c'est une carotte si un jour la boîte est vendue, et, oui. Et ça permet de partager finalement le prix de la vente, ce qui pour éviter de se dire bon voilà, en tant qu'entrepreneur c'est moi qui prends toute la valeur et vous avez rien, ce qui je trouve est un petit peu dur, et puis c'est aussi, et c'est ça qui m'a animé le plus, c'est de dire que tu bosses avec des associés. Pas que des salariés, c'est des gens qui ont un petit bout de ta boîte potentiellement et ils sont au courant de, du fait qu'ils ont un petit bout de ta boîte. Du coup, ils se comportent différemment et ils ont, je pense, une approche plus volontaire, plus impliquée, plus bienveillante vis-à-vis de, d'une entreprise qui n'est pas juste une entreprise qui leur verse un salaire, même si c'est quand même important. C'est aussi une entreprise dans laquelle ils ont un petit bout, même si ça reste un tout petit bout.
Ouais. C'est là où parce que souvent on entend dans la sémantique d'une boîte, une famille, une équipe, etc. Je trouve que ça prend tout son sens quand on propose un certain nombre de
une équipe, pas une
équipe. Je suis d'accord.
Parce qu'une famille, tu ne la quittes pas.
Oui, non.
Et tu vois, j'ai ces longues conversations typiquement avec avec mes équipes. Chez BAP, par exemple, je pense que c'est très sain qu'il y ait des gens qui viennent et qui partent. Mmh. Le turnover, c'est important. Quand t'as des gens qui sont là depuis plus de 5 ans, bah potentiellement, même pour eux, et mais surtout pour eux, ça, je pense que c'est important d'aller voir ailleurs et de trouver, voilà, je pense que c'est des équipes que tu, voilà, rester très longtemps dans une boîte, je suis pas sûr que ça soit sain. Et donc, il y a un turnover sain, je pense, dans les entreprises. Ça, c'est une longue conversation. Donc après, comment tu fais une adéquation entre un turnover sain et le fait que tu sois associé avec des BSPCE? C'est là où je suis en train d'essayer de résoudre cette équation. Ça. Elle n'est pas facile.
Parce que en effet, en plus, on voit souvent que... je te rejoins tout à fait sur le côté sain, c'est-à-dire nous, on a eu une première rotation sur la partie agence l'année dernière, et où en fait, les nouvelles équipes sont pas forcément meilleures, mais plus adaptées. Dire meilleures, ce serait irrespectueux et faux par rapport aux anciennes équipes. Mais quand je dis plus adaptées, c'est-à-dire à la croissance, on est plus gros, on a besoin de gens qui font des choses différemment, différentes, qui ont une approche différente. Donc on est finalement hyper heureux. Mais quand ça arrive, qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Je veux dire, après, te dire, elle peut pas partir parce que c'est l'enfer. On se dit, par moments, moi, j'ai des gens qui partent, j'ai l'impression que tout va s'effondrer, quoi.
Ouais, mais en fait, tu te rends compte que tout s'effondre pas et que tout se passe bien et que, voilà. Après, chez BAP, on a très peu de turnover. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que un de nos métiers de dirigeant, c'est aussi de comprendre ça et de bien le gérer. Et d'être conscient que c'est normal, c'est pas une famille, c'est une aventure, c'est une équipe qui grandit, qui se recompose qui avance en tant qu'entité tirée par les gens. Mais c'est complètement sain que voilà. Et ça, je le dis devant tout le monde. C'est-à-dire qu'on fait un rendez-vous mensuel avec tout le monde et au dernier, on appelle ça les BBM, les Big Bap Meeting. J'ai encore répété à tout le monde que BAP, c'est une aventure. Ils sont là pour une période celle qu'ils veulent mais que c'est très sain de partir et on les encourage s'ils se sentent pas bien à partir et à nous en parler et et du coup au dernier BBM, quelqu'un qui a dit j'ai trouvé un job dans le sport et c'est vraiment ça que je veux faire, donc à force d'entendre que faut suivre sa passion et si vous êtes chez BAP, vous y soyez pour des bonnes raisons, et du coup on a des gens qui partent tranquillement, sereinement et ça se passe très bien. Et donc du coup, je pense que c'est un aboutissement pour moi, ça, le bon turnover sain.
Ouais. Non, c'est sûr, c'est toujours dur à encaisser, mais je suis assez d'accord. Et puis t'as accompagné les gens dans leur accomplissement quelque part. Si tu arrives et qu'il va en effet dans une filière qui l'intéresse.
Et moi, je fais souvent la comparaison avec une équipe de foot. Tu vois, tu peux être milieu gauche dans une équipe très bon, et tu seras bien meilleur dans une autre équipe arrière droit. J'en sais rien.
Ou même milieu gauche,
mais bien meilleur parce que tu auras des meilleures personnes avec qui tu bosses mieux, qui te font des meilleures passes dans une autre équipe. Et y a pas de règle. Le pire, c'est de se réveiller et de se dire ça me fait chier d'aller au taf. Donc moi j'encourage tout le monde à se réveiller en se disant mon taf, je le kiffe, quel que soit le taf. Vraiment, mais c'est primordial. Et quel que soit le salaire, c'est-à-dire que il y a pas mieux que se réveiller en disant je vais à un endroit où j'aime aller.
Je suis assez persuadé qu'il y a un moment où dans ta vie t'as un problème quand tu te dis je pourrais changer ou faire, mais en fait je gagne tellement. Enfin, tu vois, en termes de salaire, je suis tellement, je gagne tellement.
La prison dorée.
Ouais. Mais c'est quand même assez fréquent. C'est-à-dire beaucoup de gens qui se disent, si je vais ailleurs, soit je gagnerai pas autant, soit je prends des risques, etc. Après, pour régler toutes ces choses-là, quand t'es un peu emprisonné dans ce truc, ou alors t'es malheureux le matin en te levant, et ce qui arrive à beaucoup, ce qui nous arrive de temps en temps, il y a des moments dans les vies d'entrepreneurs, tu te retrouves aussi.
Ouais, bien sûr.
Ça existe. Hein, on a des périodes où tu te retrouves dans une situation difficile, ou avec un truc où tu te dis bon, faut pas rêver. Hein, c'est pas non plus à l'inverse le truc totalement idyllique. Maintenant, employé comme entrepreneur. Quand tu te réveilles et que tu te dis ça, faut changer des choses. Changer des choses, ça veut pas dire qu'il faut quitter ta boîte uniquement. Voilà, mais il y a la relation, il y a parler à ton boss, il y a parler à son boss, il y a changer de division, il y a changer de, je sais pas.
Ouais, faut effectivement séparer le conjoncturel qui peut être résolu et le profond. Voilà, je pense que typiquement, on parlait souvent de burn-out. Quand t'as un désaccord profond avec ta boîte où tu vois pas du tout le sens de ce que tu fais et tu te réveilles le matin en allant dans un endroit où tu ne comprends pas ce que tu fais et t'as pas de sens et voilà, et en plus on te pousse, là ça amène évidemment à des moments voilà, c'est pas possible quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est du taf mais c'est du kiff chez BAP, ouais. c'est un leitmotiv profond. Et c'est aussi ça qu'on essaie de retranscrire dans nos espaces, du coup. Donc, ça fait partie d'un vrai... Alors, voilà, le bonheur au travail, tous ces trucs comme ça. Voilà, il faut qu'il y ait une exigence, c'est du taf, mais il faut qu'il y ait du plaisir au boulot. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas d'alignement avec soi-même, à quoi bon, voilà.
Et ça commence par une infrastructure adaptée,
déjà,
que ce soit
des bureaux sympas,
voilà, de la déco, de l'ergonomie aussi, hein, de l'expérience utilisateur entre guillemets. Nous, on a fait ce bureau typiquement, on y est depuis un peu plus de 6 mois. Je me rends compte au bout de 6 mois que il manque des petites salles de réunion. En fait, on a 3 salles de réunion et la plupart sont occupées toujours par 2 personnes et elles sont grandes. Du coup, là, on est en train d'en faire on va en faire 2 de plus. Non, on va pas cloisonner les grandes, ça me ferait trop mal. mais on va en faire 2 de plus, mais toutes petites pour 2 personnes.
Ouais, des box.
Et voilà, des vraies box. Et puis après, on se rend compte que il y en a une qui est trop sonore, où il y a trop d'écho, donc on va rajouter des panneaux. En fait, c'est aussi ça. C'est vraiment ce qu'on compare au métier du digital, l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'après 6 mois, comme un site internet, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas, et du coup, on corrige.
Mais c'est le reflet aussi de. C'est le reflet de ce qui se passe dans la boîte, les bureaux. Voilà, la déco, les mots que t'écris, les affiches que tu mets, tout ça, ça fait transpirer une culture. Et en fait, voilà, c'est le mot culture, il est visible dans les bureaux. C'est au final ça qui devient très important dans chaque boîte.
Oui, c'est ça. C'est toujours. Un parallèle que je peux faire, mais quand on fait une boîte qui fait par exemple un très beau site internet, une très belle appli, etc., et puis quand t'arrives dans la boîte, t'as un vieux truc dégueu, tu te dis en fait c'est un peu que du flan. Enfin, il y a un peu ce côté se dire il t'envoie une image qui est un peu virtuelle, mais dans le réel en fait, et ben t'as un vieux bureau tout pourri. Et je pense qu'il y a quand même en effet un lien direct. Mais alors du coup, vous avez quand même changé. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est changer le marché entièrement dans son ensemble. C'est-à-dire que il y a quelques années, louer un bureau, alors tu parles d'il y a 10 ans, au tout début de BAP, mais louer un bureau dans un autre bureau, c'était quand même un truc, même pas aberrant, c'était un truc inexistant. Enfin, ou peut-être que ça se faisait à l'ancienne en arrangement. Tiens, il y a machin qui.
T'as pas un pote qui.
Ouais, mais il n'y avait même pas les réseaux sociaux pour le faire, donc en plus t'as pas un pote qui, fallait vraiment le faire à l'ancienne quoi.
Ouais, il y avait des emails, il y avait des listes d'emails, je crois qu'il y avait des Google Groups. Et ouais, c'était ça en gros, c'était des emailing, des groupes d'entrepreneurs qui s'échangeaient des bons plans.
Mais aujourd'hui, c'est tout un, quand je dis que ça a tout changé, c'est que c'est tout un modèle, c'est-à-dire que moi ici on a pris 350 mètres carrés, je me dis on va en louer, donc on en loue un peu plus de la moitié. Et puis je me disais, mais on va avoir du mal à louer tout ça quand même, c'est pas si simple quoi. Ouais, ça se fait comme ça.
Ouais.
Et puis là je me dis, mais en fait je veux 350 mètres carrés de plus quoi, parce que il y a potentiellement même de l'autre côté, du côté de la personne qui loue, un modèle économique aussi.
Il va bosser avec vous.
Ouais.
S'il choisit bien, il va trouver un endroit dans lequel, en plus de trouver un bureau, il va trouver du business.
Et puis ça peut, là nous il se trouve qu'on a acheté, donc ça peut aussi amortir un emprunt. Je veux me dire, j'aurais pu acheter le double finalement, c'était fantastique. Ah ouais. Quoi.
Non, le partage de bureau, c'est a des vertus dans tous les sens. Flexibilité, coût et surtout partage social et partage business. Ouais. Donc voilà. Après, on a, j'ai pas envie de dire qu'on a inventé quoi que ce soit. On a juste démocratisé et mis une plateforme, un peu comme l'a fait Airbnb, sur une pratique qui existait mais qui n'était pas scalable entre guillemets, ou qui n'avait pas de place de marché. Donc voilà, on a créé une vraie dynamique autour d'un usage qui était évident. Voilà. Donc, et après, l'espace de coworking vient aussi, on va dire, un peu plus normaliser ce marché, mais vient créer de nouvelles offres plus normées, avec des offres très différentes, qui sont top pour tout le monde.
Et dans ce modèle, l'achat, c'est quelque chose de trop cher, ou enfin construction, c'est cher, ça. Ouais. Non, mais je veux dire, oui, voilà, mais vous pourriez construire un immeuble, ou j'en sais rien. Non,
déjà, il nous faut plus de sous pour en louer.
Ouais.
Ça coûte cher. Les acheter, écoute, c'est un sujet. On y pense, mais c'est pas un sujet du moment, quoi. Peut-être que l'année prochaine, on verra. Ça coûte pas forcément plus cher, parce que quand t'achètes un actif, t'as des banques qui te prêtent plus facilement, parce qu'il y a les murs, il y a le foncier,
il y a des garanties.
Voilà, il y a une garantie sur l'actif qui est prise, et donc la banque, elle est rassurée parce que t'achètes un immeuble. Quand tu loues, elle est moins rassurée. Donc ça coûte pas forcément plus cher, mais c'est plus d'ingénierie financière, plus de complications. Donc pour l'instant, c'est pas un modèle pour nous, mais pourquoi pas demain. Voilà, on écarte rien, on est il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous.
Ouais, il y aurait le crédit bail aussi potentiellement.
Le crédit bail, c'est une forme. Ouais, ouais. Non, mais il y a plein de choses qu'on peut imaginer demain. Notre problème, c'est d'essayer d'être focus.
Ouais.
Plein de choses à faire.
De gérer la croissance. Et,
voilà.
Mais c'est vrai que tout ça, c'est passionnant. Alors, si on revient en arrière un tout petit peu, donc Digitik. Donc, en gros, t'as jamais arrêté de bosser pour Faber à ce moment-là. Tu t'es jamais mis full focus Digitik.
Non, mais j'étais à moite-moite.
Moite-moite.
Ouais, en gros.
Et donc finalement de 2002-2003 jusqu'à
2004 à 2006, Digitik à moitié, Faber à la moitié.
Après
il y a eu 2-3 autres aventures dont j'ai passé on avait investi dans une licence de freestyle foot.
D'accord.
Voilà, donc ça c'était un peu drôle. Ça,
football, oui.
Freestyle football, oui. On a organisé les premiers mondiaux de freestyle foot à Porte de Versailles. C'était assez drôle avec Eurosport.
Oui.
On faisait plein de trucs marrants. Et après, je suis parti aux États-Unis.
D'accord.
Donc 3 ans, en gros, à San Francisco. Je suis rentré.
Qu'est-ce que t'apprends là à ce moment-là? Parce que c'est quand même. Alors t'es juste après Lehman, t'es en pleine crise financière.
Ouais, c'est ça. Après Lehman, ouais. Je suis parti à peu près à ce moment-là, ouais.
Et tu
c'est septembre, hein, Lehman. J'ai plus. Ouais, je pars à peu près à ce moment-là.
Et tu reviens avec quoi dans les bagages, je veux dire?
Écoute, 3 ans à San Francisco, je suis revenu avec une femme.
Américaine.
qui est toujours là d'ailleurs. J'ai rapatrié à Paris. C'est une belle prise de guerre, ouais, voilà, écoute. Hein, ils auront pas tous, ces Américains. J'aurais piqué une citoyenne. Et j'ai appris quoi? J'ai appris déjà que le coworking, c'était, je pense, j'ai ressenti le coworking et j'ai compris que c'était très fort, très puissant, de bosser à plusieurs dans un même espace, de s'entraider pour plein de bonnes raisons. Mais voilà, quand t'es plusieurs, t'es plus fort.
Ouais.
Voilà, c'est un principe de village, c'est un principe d'expertise que tu partages. T'as toujours des voisins qui ont des connaissances sur des sujets, qui ont un réseau. Et voilà, cette petite communauté de Paris Soma, elle m'a fait comprendre les ressorts de la force de partager des bureaux.
Petite anecdote, tu vois, un de nos clients, qui est devenu client, enfin un client du coworking si tu veux, qui s'appelle Nicolas Vidal, qui a fondé un magazine qui s'appelle BSC News. On l'a accompagné dans la refonte totale de BSC News pour que ça devienne Pooch. Donc son nouveau site a été lancé la semaine dernière, pooch.media. Et en l'occurrence, donc déjà il est devenu client grâce au coworking et c'est un beau projet pour nous, un beau projet pour lui. Et en plus, du coup, la semaine dernière, pour son lancement, il me dit, est-ce que Mathieu, je peux faire venir quelques personnes pour le lancement, voilà.
Petit pot, quoi.
Voilà, un petit pot. Et puis, il se retrouve.
Bah, t'as trouvé un autre client.
Voilà, non, mais le maire du 17e qui vient ici, etc.
Cool.
Et, il voit cet endroit. Il nous dit, en gros, c'est génial, j'adore, c'est trop beau, c'est le 17e qui se bouge, qui s'active, etc. Et là, il nous dit, je voudrais revenir, je dois montrer avec le vice-président de la région Île-de-France, et donc il revient la semaine prochaine. On sert un peu de faire valoir, mais je veux dire, tu vois, en effet, là, comme tu l'as dit, c'est vraiment
l'ouverture.
Ouais, c'est l'ouverture complète. Ouais.
Et en fait, ça s'appelle la sérendipité. Ouais. C'est-à-dire que tu sais pas ce que tu vas trouver, mais tu trouves quelque chose. Et si t'es ouvert et que t'as une approche comme ça, voilà. D'ouverture et de simplicité, tu te retrouves il t'arrive des trucs différents et des opportunités arrivent et c'est à toi de les saisir.
Nous, on est même malheureux parce qu'il y en a, deux ou trois qui voulaient venir, qui ont mis trop de temps et le bureau s'est rempli.
Ouais.
Et il y en a un, on se tourne autour, c'est vraiment, on est en plein là-dedans, vraiment, il y en a deux en particulier. Et pour l'instant, on peut pas les faire venir parce qu'on a plus de place. Et ça nous rend dingue parce que ils sont sympas, ils ont des super projets, ils cartonnent. Il y en a un qui a un clébard, il trouve pas d'endroit où dog friendly. Nous, on lui dit tu peux venir, y a pas de souci. Enfin ouais. D'accord. Donc.
Mais t'as tout compris. C'est ça. C'est voilà. Et ça, tu vois, tu le comprends. C'est un truc que tu comprends qu'en le vivant en fait. Et donc voilà. Donc c'est je pense que c'est ça que j'ai vraiment appris. Après j'ai amélioré mon anglais aussi. et puis voilà, puis si j'ai appris quand même que voilà comment fonctionne la Silicon Valley de l'intérieur, c'est quand même une bête assez intéressante. Voilà, de voir ces grosses machines, ces grosses startups. On avait Airbnb qui était à 200 mètres de chez nous. On bossait pour eux au début, quand ils étaient 15 dans un appart. Je suis allé dans leur appart, fallait se déchausser, se mettre en chaussettes. Oui, effectivement, il y a quelque chose de spécial dans cette partie du monde.
D'inspirant, quoi. Ouais.
D'inspirant, de gens un peu fous, un peu loufoques, qui regardent très loin. Et puis plein d'argent et puis plein de cerveau et puis une attractivité. Voilà, c'est un endroit assez marrant. J'en suis revenu aussi parce que voilà, c'est un petit peu trop et je préfère mon terrain parisien.
Ouais.
Et puis plein d'autres raisons culturelles qui les Américains quand même ils sont fatigants aussi par plein de côtés. Donc j'avais envie de revenir à Paris et voilà, et donc c'est là où j'ai décidé de, en revenant à Paris, de entre guillemets lancer un projet. Et donc il y avait Bureau Partagé qui entre guillemets était dans les cartons et qu'on en faisait pas grand chose chez Faber Novel, et je me suis assis avec Stéphane et puis on a trouvé un deal. J'ai récupéré le bébé. Et j'en ai créé une filiale. Ça s'appelle dans notre jargon une excubation.
D'accord.
Et voilà. Et donc ça c'est parti comme ça.
Donc vous avez créé ça et donc Faber est actionnaire.
Ouais, Faber est actionnaire. Et moi je suis évidemment actionnaire de BAP.
Il y a eu des levées de fonds déjà.
Ouais. Il y a la Caisse des dépôts qui rentre au capital.
Donc ils ont pas aimé que Faber soit actionnaire par exemple, j'imagine.
Si,
Si.
Non, c'était important pour eux.
Si je dis ça, c'est par rapport à notre approche tout à l'heure de Startup Studio.
C'est pas pareil. La Caisse des dépôts, c'est pas un fonds classique, on va dire. Et puis l'entrepreneur, il est là.
Oui.
Il était devant eux et il avait la majorité. Donc voilà, si j'avais effectivement eu 20% du capital, la Caisse des dépôts aurait peut-être eu le même regard inquiet en se disant dis donc Faber Novel, vous êtes pas opérationnel, qu'est-ce que vous faites là quoi. Donc, non, mais c'est normal, en tant qu'investisseur, tu veux des gens, tu veux des capitaines ou un capitaine ou des capitaines qui vont tenir la barque.
Et ça faisait quoi comme chiffre d'affaires à peu près, je sais pas, quand t'as repris la baraque, c'était vraiment
zéro.
Ah
oui. Ah non, j'ai repris un site internet.
D'accord.
J'ai pas pris une ligne de business.
D'accord.
J'ai pris un site internet. Au départ, je savais pas comment j'allais gagner de l'argent. J'étais sur ma petite table à l'entrée de Faber Novel avec ma meilleure copine Marie qui est toujours là et une stagiaire qui est toujours là qui est revenue. Elle s'appelle Marie aussi. T'as vu, j'ai commencé avec deux Marie.
Deux Clément, deux Marie.
Voilà. C'est non biblique. Donc au départ, voilà, j'ai démarré vraiment en mode bootstrap. J'ai mis les 100 000 euros de que j'avais gagné sur Digitik. Et puis je me dis, on verra voir ce qui se passe, tu vois. J'ai commencé à faire payer les gens quand ils trouvaient des bureaux grâce à nous. Et puis finalement, j'ai fait payer les offreurs. Et puis j'ai commencé à trouver un business model. Et puis ça a commencé à marcher. Et puis j'ai développé d'autres choses. Et puis comme j'aime bien avancer et pousser, j'ai développé des business, voilà. Et puis Morning, et puis Link, et puis voilà.
Sachant que du coup, je me souviens plus comment ça s'est passé ici, mais le modèle, c'est que je paye aujourd'hui, c'est quand les gens viennent chez Cosa Vostra, donc ouais. Je paye
une commission. Ouais. Normalement, tu payes le premier mois.
D'accord.
À bureau à partager, ou 10% par mois pendant 12 mois. Donc en gros, on prend 10%. Ouais. On prend 10% sur on prend le premier mois, quoi.
Ce qui est, et je le dis, pas pour faire ta pub, mais largement valable, parce qu'aller chercher les mecs à droite à gauche, bon après...
Oui, non, c'est pas possible. Ouais. Non, après, si tu vas chercher dans ton réseau des gars, nous, on te facture... Enfin, voilà, c'est gratuit. Voilà,
oui, bien sûr. C'est pas exclusif.
C'est parallèle, exactement, mais pas du tout exclusif. Donc, en gros, le discours commercial a toujours été, si tu trouves par tes propres moyens, bah génial.
Ouais, moi, je viens
Nous, on est là pour... voilà. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ça te donne le choix. Si par exemple, nous on a toujours dit, bah, tu peux mettre une annonce sur Le Bon Coin, peut-être que tu trouveras des gens. Au moins, tu auras le choix entre quelqu'un qui vient de chez nous, quelqu'un qui vient du Bon Coin, quelqu'un qui vient par ton copain. Et ça se trouve, la personne qui vient de chez nous, bah, c'est un graphiste qui pourra t'aider dans ton business. Et filer un mois 300 balles à BAP, ça sera rien au regard de ce que le mec peut t'apporter dans ton business.
Ouais.
Donc, c'est ça le discours, c'est de se dire il faut que tu aies le choix des colocataires, parce que c'est beaucoup plus important que juste 300 balles par mois d'avoir un colocataire. C'est quelqu'un que tu vas côtoyer tous les jours. C'est comme quand tu partages ton appart, quoi. C'est pareil. Tu le croises dans la cuisine, tu deviens pote, tu tapes sa sœur. Enfin voilà, c'est.
Non mais c'est vrai que je dois dire que le côté nous, on a mis des annonces sur Le Bon Coin. On n'avait pas du tout le même type de personne.
Exactement.
Et je voudrais pas du tout être condescendant ou quoi. C'est juste que peut-être que, en tout cas, dans une approche un peu plus start-up, entrepreneur, etc., on avait des gens qui correspondaient plus à ce qu'on cherchait.
Bien sûr.
Sur BAP.
Ah, c'est alors, un retour qu'on a tout le temps, ça.
À noter. BAP, tu dis BAP, donc ça veut dire que vous avez, enfin, pour moi, c'est, tu vois, par exemple, je ne supporte pas quand quelqu'un dit Cosa au lieu de Cosa Vostra, j'ai envie de lui éclater la gueule. Parce que,
ouais, je me dis,
on n'est pas assez connu.
Bureauxapartager.com.
Voilà.
Et le groupe s'appelle BAP.
D'accord.
Donc maintenant, on a un site qui s'appelle BAP.fr, qui regroupe toutes nos activités.
D'accord.
Et donc, les activités en dessous, c'est bureauxapartager.com, Morning Coworking, Link.
D'accord.
Et Flex. Donc oui, on a fait un travail de naming. Oui, je me fais engueuler par ma dircom, sûrement parce que j'ai pas encore toujours pris le bon vocabulaire. Voilà, mais effectivement, c'est un travail qu'on fait. Mais c'est le groupe BAP maintenant.
Ok, on a un temps pas extensible, alors je vais pas durer beaucoup plus, mais j'ai quand même quelques questions avant de te quitter. Aujourd'hui, tu parlais par exemple 10 à 12 heures par jour des gens qui bossent. C'est ton cas, toi? Tu bosses énormément comme ça ou...
Ouais, je bosse pas mal. Alors, je pense que je bosse beaucoup moins que la moyenne des entrepreneurs, pour le coup. Surtout depuis que j'ai une fille. J'essaie d'être chez moi à 18h30, 19h. Tu vois, là, je suis pas mauvais encore.
Mm-hmm.
Et après, je bosse tout le temps. En fait, la différence, je pense, c'est que avec quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, c'est que moi, j'ai dans mon cerveau en permanence mon taf. Et donc, où que ce soit, sauf quand je fais du sport, quand je joue avec ma fille, quand je dors, voilà, grosso modo, je pense à des sujets taf et ça m'éclate en fait. Je peux pas faire des vacances sans couper mon portable. Je vais travailler genre une heure le matin, une heure le soir, mais je ne supporte pas couper, par exemple. C'est parce que j'aime mon boulot.
Comprends.
Voilà, donc j'ai. Mais en revanche, dès que je sens que l'overdose arrive, parce que de temps en temps tu peux, voilà, je fais gaffe et puis je vais couper. Donc en fait, c'est pour moi tout est une question d'équilibre. Voilà. Donc oui, je pense que je bosse une dizaine d'heures par jour, mais de temps en temps j'ai pas bossé le matin, de temps en temps j'ai bossé beaucoup. Je vais bosser 4-5 heures le week-end répartis.
Ouais.
Enfin, en fait, voilà, je bosse tout le temps et je bosse jamais, quoi. Entre guillemets.
C'est ce qui me fait marrer, parce que au moins t'es lucide là-dessus. Je m'étais un petit peu moqué de Céline Lazorte quand j'ai échangé avec elle sur ce podcast, donc la fondatrice de Litchi, parce que elle me dit, moi, le samedi, je travaille pas. Et je lui dis, d'accord, mais du coup, tu regardes pas ton téléphone. Elle me dit, ah bah si, mon téléphone, si, mais bon, tu regardes pas tes emails. Bah si, mais bon, c'est pas travailler. Ça lui dit, ben, si, en fait, quand tu reçois des emails le week-end et que tu les traites d'ailleurs ou que tu les traites pas, que tu les lises et que tu sais quand même une certaine, ne pas travailler du tout pour un entrepreneur, ça voudrait dire, vraiment sortir toute influence, ce qui est quasi impossible d'ailleurs.
Moi, je pense que je traite, alors traiter, c'est lire, effacer et répondre, une centaine d'emails dans le week-end. Voilà. Notamment parce que on a un petit truc chez BAP, c'est que tout le monde fait un petit email le vendredi pour raconter sa semaine et les grandes priorités de sa semaine prochaine, et je suis en copie, pas pour fliquer.
Donc tout le monde le fait à qui? À son boss, à tout le monde, non, quand même
à
pas.
Son non, tout le monde le fait à son team coordinateur. On essaie d'être très à plat, donc on essaie d'être.
D'accord,
y a plus de poste, y a plus de boss. On est très entreprise libérée chez BAP.
D'accord.
Enfin, c'est un gros sujet du moment et on y travaille. Donc il l'envoie à qui il veut en fait. C'est ça qui est marrant. Mais je suis en copie, peut-être pas pour plus longtemps. Faut que je vois parce que ça commence à faire beaucoup.
Mm-hmm.
Mais ce qui est génial, c'est que ça me donne le pouls de la boîte. Parce que je lis assez vite en fait tout ce que raconte tout le monde, surtout, et du coup bah ça me donne une vraie impression de ce qui se passe sur le week-end. J'ai en gros une photo de la boîte.
Donc t'as 70 mails à peu près.
Ouais, c'est ça, en gros. Et cinquantaine, parce qu'il y a des gens qui oublient.
D'accord. et le mail, il dit c'est good, bad, ugly news, ou c'est juste...
Parce des gens qui font 5 lignes et des gens qui en font 50.
Mais s'ils ont un gros fail, ils doivent le dire aussi, ou ça...
Ah ouais, l'objectif, c'est de partager.
Ouais.
Le fail, c'est normal. Hein. Donc, non, tout le monde partage. Ils partagent ce qu'ils veulent, les moments, les sujets durs, les sujets, ce qui vont bien, les trucs sur lesquels on demande évidemment à tout le monde d'avoir une idée par semaine. Donc ça, d'accord, c'est mon truc.
J'aime bien le évidemment, mais
évidemment, ouais, c'est pour c'est
une idée ça. Par semaine. Ouais.
On demande aux gens d'avoir une idée par semaine sur la boîte, sur leur business, sur ce qu'ils veulent. On attend tant des thèmes, où on devrait partir en séminaire, j'en sais rien, ou comment tu pourrais améliorer ton business ou ton efficacité. Enfin, plein de sujets divers et variés, que ce soit business ou voilà, organisation.
Idée, quoi. Et du coup, ça, c'est quelque chose, des choses sur lesquelles tu sors
des idées, ouais.
Des idées, des vrais trucs, quoi.
Ouais, ouais, bien sûr. Bien, plein de trucs. Mais surtout, ça me nourrit, en fait. Et je me rends compte que c'est ça, en fait, qui devient mon rôle, en fait, de plus en plus, c'est d'être le plus haut possible et d'être nourri le plus puissamment possible et d'essayer de retranscrire l'entreprise et d'essayer d'amener de la vision et de la hauteur. Ça me nourrit parce que en fait je vois tout d'un coup en fait. C'est pas forcément clair quand je l'explique, mais
si je
tu le vois.
Ouais, je le vois. Et du coup mais en revanche tu supprimes des strates, parce que enfin je veux dire, tu parlais, ouais, de management horizontal. Il y a alors moi, c'est des choses qui m'intriguent et sur lesquelles je, évidemment, comme beaucoup, je me renseigne énormément. L'entreprise libérée, toutes ces choses-là. Et à la fois, il y a aussi des choses qui sont difficiles quand tu... par exemple, moi, je vis une période difficile en ce moment en termes de business.
On va parler de toi un peu.
C'est que et j'en ai parlé avec Bertrand Altmaier, je sais pas si tu le connais, qui est le fondateur de Marcel, qui a revendu notamment ses deux boîtes à Renault récemment. Et en fait, un passage difficile pour un entrepreneur, je crois, c'est de passer une grosse trentaine de salariés. Parce que quand tu arrives aux alentours de 30, 35, 40, en fait, et du coup, on reviendra sur ce point-là précis, mais t'as pas de middle management. Donc, t'es impliqué dans tout. Donc, t'as beaucoup trop de travail. Donc, moi, je suis pas du tout dans le micromanagement. Ça m'intéresse pas, mais il se trouve que,
on te sollicite.
On me sollicite sur beaucoup trop de choses, et des choses sur lesquelles j'ai peu de valeur ajoutée. Et en fait, lui me disait, quand je lui demandais à quel point il bossait et s'il bossait trop, ça c'était en dehors du podcast, mais je peux le raconter, je pense. Et il me dit, depuis un an, on est passé de 30 à 50. Et
donc,
j'ai rentré des middle managers. Alors, c'est peut-être des team leaders ou, mais, Et du coup, je bosse mais nettement moins qu'avant. Et c'était une libération. Et c'est vrai que je me dis, bon, pour moi, la prochaine étape, c'est d'arriver à ce moment où on réussit à passer ce truc où finalement, il y a une forme de tension permanente sur un business où bah faut tenir pas mal de choses, hein, mais des rentrées d'argent, payer des gens, trouver de nouveaux clients, aller ouais. de l'avant. Et du coup, tout ça, c'est passionnant. Moi, c'est vrai que j'adore ce que je fais, mais en termes de volume de travail, c'est démentiel. Ouais.
Alors, je pense que la première chose, que j'ai faite et qui me permet d'être, on va dire, un peu plus libre, c'est de responsabiliser à mort les gens. Et leur donner de l'autonomie et de la liberté et de la responsabilité. Donc tout ça va ensemble. Et en gros, de leur dire, démerde-toi. Quand t'as un problème, tu te démerdes, tu me sollicites vraiment que si t'y arrives pas. Mais en tout cas, sauf à ce que t'estimes que t'as besoin de ma validation parce qu'il y a beaucoup de risques sur la décision ou autre, ou parce que tu veux juste me tenir informé, tu peux me tenir informé, mais me demande pas forcément ma validation. Ouais. Donc voilà. Déjà, ça c'est une façon de te décharger et de responsabiliser les gens. Et en plus, ça a une vertu juste incroyable, c'est que les gens, ils se sentent plus concernés, plus motivés, plus impliqués. Ils progressent parce qu'ils ont de la responsabilité. Et ils bossent juste mieux, quoi.
Bien sûr.
Donc déjà, ça c'est un style de management. J'aime pas ce mot, mais par le coaching plus que par le si tu dois suivre mes ordres,
oui.
Et qui te permet en fait de pas avoir de manager, parce que tout le monde est manager de son boulot. Donc ça c'est je pense que c'est la première chose à faire si on veut se libérer du temps et du temps de cerveau et du temps d'interaction et après dans ces entreprises libérées, je te conseille de le lire, Lalou, qui est vraiment un super bouquin là-dessus.
Comment tu
l'appelles? Lalou, LALOUX.
D'accord.
Reinventing Organization, qui est un bouquin que j'ai lu en fin d'année dernière et qui a révélé en fait beaucoup de choses qu'on faisait chez BAP, qui a mis des mots et qui a mis de la théorie sur des trucs très concrets. Et on a encore beaucoup de choses sur lesquelles on doit progresser, hein. Je dis pas qu'on y est. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément complètement d'accord. Mais cette idée qu'en fait les coordinateurs d'équipe, donc t'as des équipes, quelles que soient tes équipes, tu les fais fonctionner en équipe. Et après, t'as un coordinateur qui va être la personne qui va être un peu plus senior ou qui va être celle qui va, et ça peut émerger naturellement, ça peut être d'ailleurs un jeune qui devient coordinateur, et puis après t'as des experts dans les teams, et donc tu vois, cette équipe là elle doit presque fonctionner en autonomie.
Et c'est des équipes qui sont en ligne ou qui sont par projet, ou c'est des qui se forment, qui se déforment, ou ce sont des équipes
T'as en gros alors chez BAP on a une équipe par business, et puis après tu peux avoir des équipes dans les équipes. Et après t'as des par exemple des compétences qui vont être un peu plus transversales, donc tu auras des biz devs qui sont transverses, des expertises chez différentes personnes qui sont en différentes équipes qui vont se réunir typiquement.
D'accord.
Donc après voilà, faut essayer de trouver une organisation qui soit la plus lean mais en même temps la plus efficace par rapport à ton business. Donc ça c'est tout un travail, et puis ça dépend aussi des gens. Donc ça c'est hyper chouette en fait en termes d'exercice. Mais bon, la base de la base, c'est de responsabiliser les gens. Et déjà, quand t'as des gens qui aiment leur boulot, qui sont responsables de leur taf, t'as déjà fait la moitié du chemin, quoi.
C'est sûr. C'est ce qu'on essaye de faire ici. Voilà. Systématiquement, dans les personnes qui rentrent, on leur dit très vite, tu sais qu'ici, tu vas être très vite livré à toi-même. On est là en support, mais on est là, pas là pour te dire ce que tu dois faire, quoi. Donc, et on est dans l'auto-formation, beaucoup dans le... Enfin, moi, apprendre à quelqu'un à faire du dev en Node.js ou du référencement naturel, j'aurais peu de valeur ajoutée. Donc, d'accord. Et du coup, tu parlais un peu de tes lectures là. Tu lis beaucoup de bouquins comme
pas
ça,
assez.
Pas assez.
Pas assez du tout. Celui-là, on me l'avait conseillé. Du coup, je l'ai lu. Et je lis très peu de bouquins de management en fait. D'accord. Celui-là, voilà, voire pas du tout. Alors si je me suis dit que j'allais lire, là j'ai commencé, mais j'ai fait que 3 pages. Le livre dans la même veine d'Isaac Getz, qui est un mec que j'avais rencontré en 2004 avec Faber Novel sur son premier bouquin qui s'appelait Vos idées changent tout, que j'avais beaucoup apprécié. Et on a eu une mission sur la détection des idées, la remontée des idées sur une boîte. Et du coup, je m'étais beaucoup intéressé au sujet. Du coup, comme il a écrit un livre qui s'appelle Entreprise Libérée, ou Libéron, je ne sais plus comment il s'appelle. Mm-hmm. Du coup, voilà, je me suis dit que j'allais le lire, mais je suis au début du début.
Et t'as évoqué un peu de philo tout à l'heure ou de choses comme ça? Tu lis d'autres choses?
Non, c'est quand je, voilà, non, je lis pas beaucoup. Là, j'ai les deux bouquins de Mata Hari. Il faut que, pareil, j'ai commencé. Je m'endors. En fait, voilà, j'arrive, j'essaie de, je lis 10 pages le soir, je m'écroule, quoi. C'est une activité qui est quand même, donc non, en vacances. Je lis un peu en vacances. Non, mais je dois lire 5 bouquins par an, quoi. C'est affligeant. Je suis affligé par.
Alors moi, je me suis contraint à en effet lire le soir en me couchant tous les jours, être loin d'un téléphone portable ou d'un écran. Donc je suis sur Kindle. Bon, personne n'est parfait. et le matin, moi, j'ai une tendance à me lever assez tôt et souvent avant mon réveil. Et donc je lis aussi. C'est-à-dire que je mets
la première.
Oui, la première chose que je fais maintenant depuis quelques mois, c'est que je lis le matin. Et en fonction de l'heure à laquelle je me réveille, ça peut être un quart d'heure, une demi-heure. Mais du coup, je lis beaucoup plus. En quelques mois, le fait de s'imposer. Mais honnêtement, ça, il y a un côté.
T'as pas d'enfant encore?
Si, si. Mais
comment tu fais?
C'est compliqué. Non, ça dépend. Là, je.
Tu lis avant que tes enfants se réveillent?
Généralement, oui, mais je me réveille assez tôt.
Donc t'es à 5 heures du matin.
Mais ouais. Okay.
Bravo.
Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne chose. D'accord. Et du coup, c'est quoi tes petits secrets? Je vais te libérer juste après d'entrepreneur, justement, dans tes routines quotidiennes, dans tes inspirations. Après, on va parler très vite des outils que tu utilises, que tu peux recommander. Mais est-ce qu'il y a des petites choses?
Alors, moi, l'inspiration, c'est beaucoup les gens. Discuter avec toi là par exemple pendant une heure, je vais y repenser, puis je vais avoir des idées et
la chance c'est que tu pourras le réécouter.
Je vais me réécouter, tu vois, complètement mégalo.
Oui.
Donc moi je m'inspire beaucoup des conversations que j'ai avec des amis. J'ai pas mal de potes entrepreneurs, donc on échange beaucoup. Et juste les gens que je rencontre, que ce soit quand je fais des entretiens, dès que je rencontre en fait quelqu'un que je ne connais pas, j'essaie de trouver des trucs qui m'a, enfin voilà, dans la conversation j'ai beaucoup de choses qui m'inspirent.
Les questions, quoi.
Ouais, les questions et donc je pense que ça compense un peu ma non lecture, donc je lis pas assez effectivement, donc je suis beaucoup dans la conversation et dans l'échange. C'est ça qui m'amène des idées. Je suis incapable d'avoir des idées tout seul, par exemple. Enfin, j'en ai assez peu. Et donc, du coup, faut que je confronte et dans la conversation, je trouve des idées et je fais grandir les idées. Donc,
la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des idées tout seul? Parce que, je veux dire, ça sort toujours d'un.
T'as des moments où t'as un eureka quand même.
Ouais, ouais.
T'as des trucs où ça sort et tu dis, ah, du coup, mais j'ai souvent, quand j'ai une idée, j'appelle quelqu'un pour la partager, juste pour la confronter tout de suite.
Moi donc, je la note parce que je l'oublie.
Ouais, effectivement. Il y a ça aussi, ça m'arrive. Moi je fais beaucoup de sport.
Ouais.
Mon secret c'est l'équilibre physique.
Quelle forme c'est?
Je fais du foot, du tennis, je vais à la salle. Voilà, je fais du vélo. Voilà, donc j'ai besoin de transpirer pour vider mon corps, et ça crée un équilibre important. Enfin, c'est un équilibre important pour moi.
Ça aussi, les enfants, ça va changer les choses, mais
ouais, j'ai une petite fille, évidemment c'est un bonheur, et ça, voilà, j'ai pas encore d'inspiration conversationnelle avec ma fille à 2 ans. J'espère que ça viendra vite. Non, j'ai pas de secret magique.
Des outils, tu utilises quoi, genre en productivité, t'as pas de, je sais pas, de méthodes, je sais pas quoi, non.
Non, je prends aucune note.
C'est fou ça. Tu as une grosse mémoire.
Non, aucune mémoire, mais je prends aucune note et je fais une sélection naturelle de ce que je retiens. Donc je ne prends plus de notes en rendez-vous. Alors, sauf si
the
je dois
shit
faire,
that sticks, c'est vraiment le jeu.
Exactement.
Ce qui reste, c'est là.
Et ben c'est ça. C'est certain que c'est important et que je vais le faire. Non, moi j'ai 3 outils.
Ah, mais moi ça me fascine parce que alors moi j'ai vraiment très peu de mémoire, mais mon truc c'est les notes, quoi. C'est-à-dire que sauve la vie.
Non, mais j'ai 3 notes qui traînent quand je dois faire une to-do list parce que c'est important, mais sinon je vire les notes. Et je fais très peu de to-do list.
Tu t'envoies des emails,
je
sais pas.
Je m'envoie un peu des emails.
Ah.
Quand je veux me faire un truc à, quand je veux pas oublier quelque chose à faire, d'accord, je m'envoie un email. Effectivement.
Oui, mais ça c'est une forme détournée de notes ou de to-do list.
Alors, mais du coup, je me sers de mon agenda pour mes rendez-vous, de mes emails. Et honnêtement, mes SMS et mon WhatsApp, enfin, tu vois, je suis hyper. Alors, chez nous, on utilise Asana,
ouais.
Mais comme je veux pas être dans des projets, je regarde très peu. On a Slack évidemment, ouais. Et je suis dedans, donc j'utilise Slack. Enfin, voilà, je suis dans tous les réseaux sociaux, mais je pense que 80% de mon temps, c'est email. Maintenant, j'ai un truc qui s'appelle JuliDesk. Je sais pas si tu connais.
JuliDesk, oui.
Qui est le truc qui fait, qui voilà, c'est un assistant bot, que j'adore. Mm-hmm. Ça gère mon agenda, ça me fait gagner un temps monstre.
Ça marche bien.
Ça marche très bien.
Et j'allais dire qu'il fallait que Slack soit le sponsor de ce podcast, parce qu'à chaque épisode, quelqu'un me dit je suis sur Slack, évidemment. Et donc, faudrait que je trouve
mon
une personne.
Mon équipe est sur Slack. Mais moi, je l'utilise pas assez bien et pas assez. Enfin, pas bien. Tu vois, par exemple, je suis un mauvais élève de Slack.
Sachant que, voilà, ça a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. C'est-à-dire qu'en termes d'interruption, c'est compliqué.
Moi, j'ai enlevé la notification. Ouais. Donc, voilà. Non, mais je suis, alors, je pense que ça a des vertus, parce que ça enlève des emails. Mais je pense que ça dépend pour qui, ça dépend sur quel sujet tu travailles, ça dépend de ta personnalité. Honnêtement, faut prendre les outils qui te correspondent. Il y en a 50 000, faut les tester, faut voir. Si t'aimes bien avoir la tête au carré, avoir des Wunderlist et tu utilises Wunderlist. Voilà. Donc, moi, je suis assez basico-basique, j'ai mes emails. Je suis en mode zéro inbox, donc à la fin de la journée, j'essaie d'avoir 10 emails, et là, ça me rend fou quand je vais revoir mon portable, parce qu'il va y avoir 50 emails, et donc je vais essayer de les traiter au maximum, pour me coucher avec très peu d'emails. Et j'utilise la fonction inbox d'en renvoyer des emails pour justement me renvoyer les trucs que je dois faire. Oh, voilà. Mais je me sens libre quand j'ai. Voilà. Je suis un peu attaché par mes emails. C'est peut-être mon plus gros problème.
Ce qui est un très gros problème.
C'est un gros problème, mais je le gère pas mal. Alors je me demande si je vais continuer à bien le gérer. Donc tu vois, c'est un sujet en ce moment. Mais pour l'instant, ça va.
Ouais, parce que moi, c'est une box. En fait, j'essaie de pas avoir d'emails en non lu. Parce que les non-lus sont ceux à traiter, et j'arrive jamais à descendre en dessous des 50, 60, 65, ce qui n'est pas énorme en soi, hein, mais.
Moi, je jette, je transfère, ou je réponds, ou je renvoie plus tard. Et j'essaye de le faire, de dépiler.
Moi, il y en a que j'arrive pas. Tu vois, des trucs qui ont un an et demi, c'est vraiment le dernier du fond, et je peux pas le jeter parce que je sais qu'il va me servir un jour et il faut que je le garde quelque part. Mais.
Et remets-le toi dans 3 semaines. Au moins, tu le reverras dans 3 semaines ou dans 2 ans. Tu mets une date qui revient. Il y a une fonction où l'email revient de façon aléatoire. Je l'aime pas mal. je l'aime bien, celle-là. Je la presse quand je me dis, bon, celui-là, vraiment, je m'en fous. On verra quand il revient.
Ouais. Bon, écoute, en tout cas, j'ai été ravi. On pourrait continuer encore bien longtemps, on se fera ça. On va suivre de près. Donc, bureau à partager. On peut te suivre, toi, où tu communiques un peu, Twitter, LinkedIn,
pas trop. Ouais, Facebook, Twitter. Je poste un petit peu, mais bon, pas grand chose.
Si on t'ajoute sur Twitter, enfin oui, pas accepté ou pas, compte privé.
Pas grand chose, ouais.
D'accord.
Non, c'est.
C'est plus bureau à partager qu'on va suivre.
Ouais, BAP. Ouais. BAP, on va essayer de prendre la parole de plus en plus sur le Future of Work.
Ok.
Et ça va être, je pense, notre sujet de l'année 2018. On est en 18 déjà. Je pense que c'est là que
ça va. En fait, je viens de réaliser que j'ai trouvé mon futur sponsor, quoi. C'est bureau à partager. Ouais, voilà. J'y avais pas pensé. on va se parler juste après. Clément Altresco, donc je te remercie 1000 fois.
Merci à toi.
On suit bureau à partager partout. À très bientôt sur Génération du
Tuto. À bientôt.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.